En 1970, c'était au mois de mars, j'arrivais, enfin j'avais l'impression d'arriver vraiment au bout du rouleau dans ma vie. Et à cette époque, je travaillais avec la Maison de la Culture de Thonon-les-Bains dans le théâtre. Je faisais partie de la troupe de théâtre. Et je suis allé au bord du lac, le lac de Genève, ou le lac Léman, je ne sais pas comment on l'appelle. Et j'ai parlé à Dieu. Et j'ai dit, Dieu, je ne sais pas si tu existes. J'en suis pas sûr. Mais si tu existes, fais-toi connaître à moi. Fais-toi connaître qui tu es. Fais-moi connaître qui tu es et ce que tu veux de moi. Et Dieu l'a fait. Les disciples, un jour aussi, ont demandé cette question à Jésus. Comment est-ce qu'on doit prier? Jean-Baptiste a enseigné ses disciples comment prier. Comment est-ce que nous, on doit faire pour s'adresser à Dieu? Jésus a répondu. Et dans cette réponse se trouve en partie la réponse à la question « Qu'attendons-nous de Dieu ?» C'est dans Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Je commence au verset 7 parce que le texte est assez long. Et Jésus leur dit « En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Qui est Dieu? C'est d'abord la première question. Jésus dit, en parlant de la prière, que Dieu est notre Père. Il est un Père. Il n'est pas un monstre. C'est vrai qu'il existe des pères monstrueux, ça existe. Mais ce n'est pas notre image d'un Père. Dieu est notre Père. Dieu est aux cieux. Son nom est saint. Il n'y a rien de mauvais en lui. Rien de méchant. Rien d'injuste. Rien d'impur. Il règne. Il a une volonté. Tout cela est Dieu. Il y a deux parties dans cette prière. Il y a deux parties. D'abord, il y a qui Dieu est. Il est notre Père qui est aux cieux, qui est saint, qui règne, qui a une volonté. Et ensuite, il y a l'autre partie, qui est les demandes. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous induis pas en tentation. Pourquoi nous pouvons demander de telles choses à Dieu? Pourquoi nous pouvons demander à Dieu, donne-nous notre pain de chaque jour? Pourquoi nous pouvons dire à Dieu, pardonne-nous nos offenses? Pourquoi nous pouvons dire à Dieu, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal? Pourquoi? À cause de ce qu'il est. À cause de ce que Jésus a dit avant. Parce qu'il est notre Père. Nous pouvons lui demander, donne-nous notre pain de ce jour. Parce qu'il est saint. Parce qu'il a une volonté parfaite, parfaitement sainte. Nous pouvons lui demander pardon. Et nous pouvons lui demander de nous délivrer du mal. Autrement dit, la prière, cette prière et toute prière d'ailleurs, n'a de sens et ne change quelque chose que dans la mesure où nous savons à qui nous l'adressons. Vous voyez, nous ne demandons pas le pain quotidien, le pardon, la délivrance du mal à cette chaise. On ne demande pas ça à cette chaise. On ne demande pas ça à une statue quelque part. Sur la place de Genève ou je ne sais où. On ne demande même pas ça à notre meilleur ami. Pourquoi? Parce qu'une chaise est une chaise. Une statue est une statue. Et un homme est un homme. Ce qu'on attend d'une chaise, c'est d'abord que quand on s'assoit dessus, elle ne tombe pas. Et si possible qu'elle soit esthétique. Voilà ce qu'on attend d'une chaise. Ce qu'on attend d'une statue, c'est qu'elle soit belle, qu'elle signifie quelque chose, qu'elle représente quelque chose d'intéressant, de beau. Et ce qu'on attend d'un homme, c'est d'être un homme, pleinement un homme, avec tout ce que ça comporte de dignité, de capacité d'aimer, de capacité de communiquer. Eh bien, nous n'attendons pas d'une chaise, ou d'une statue, ou d'un homme, ce que nous attendons de Dieu. Paul Claudel disait, la preuve du pain, c'est qu'il nourrit. Eh bien, la preuve de Dieu, c'est qu'il nourrit. Le pain nourrit notre corps. Quand nous l'avons mangé, absorbé, eh bien, nous sommes bien contents. Nous n'avons pas besoin de démontrer tous les éléments du pain. Nous ne savons même pas comment il a été fait. Le boulanger l'a fait, mais nous ne sommes pas censés pouvoir expliquer scientifiquement comment il est venu, comment il est apparu, comment il a été fabriqué par le boulanger. Tout ce que nous avons besoin de savoir, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est d'en manger. C'est pareil avec Dieu. La preuve de Dieu, c'est qu'il nous nourrit. Il nourrit notre âme. Il nourrit notre âme de son amour, de sa sainteté, de sa bonté, de sa justice. Et ça explique mieux la prohibition d'Exode chapitre 20 de ne pas faire des statues et des images pour se prosterner devant Dieu que n'importe quoi. C'est ça qui explique la prohibition d'Exode chapitre 20. Je vais vous le lire. Un texte très important. Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Ce n'est pas l'interdiction de faire des images ou des sculptures. Les hommes ont toujours fait des images et des sculptures. L'homme est artiste, l'homme est créateur. Ce n'est pas cela. Mais c'est la prohibition, l'interdiction de se prosterner devant des statues en espérant d'elles quelque chose. Pourquoi cette prohibition? Ben pour une raison toute simple. C'est que dans la vie, Dieu ne veut pas qu'on se fasse des illusions. Vous saviez ça? Dieu ne veut pas que l'homme se mette devant une statue en espérant quelque chose que cette statue, de toute façon, est incapable de donner. Et Dieu ne veut pas non plus qu'on se prosterne ou qu'on compte tellement sur nos amis, sur des choses qu'ils ne sont pas capables de nous donner, parce qu'on va être déçus. Ça, c'est de l'illusion. Et Dieu ne veut pas que nous vivions dans l'illusion. Il est illusoire, donc, d'attendre de quiconque le pain quotidien que Dieu peut nous donner, le pardon et la délivrance du mal. Il n'y a que notre Père céleste qui peut nous garantir ces choses et bien d'autres aussi. Comment est-ce qu'Israël savait, comment est-ce que ce peuple savait qu'il était illusoire de vouloir invoquer Osiris ou Isis ou Ra, les dieux d'Égypte, plutôt que Yahvé? Comment est-ce qu'il le savait, ça? Dieu le dit, Dieu répond à cette question dans Exode 20 toujours. Parce qu'il dit, dans ce chapitre, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » La certitude que ça ne sert strictement à rien de demander à Osiris ou à Ra ou au fleuve Nil quoi que ce soit, c'est tout simple. C'est d'abord parce que Dieu a parlé et deuxièmement, que Dieu l'a prouvé, Dieu a fait quelque chose. Il a fait sortir le peuple d'Égypte. Ça veut dire que c'est sur la base des paroles entendues, reçues, révélées de Dieu, et sur la base des actions de Dieu, que le peuple peut savoir ce qu'il peut attendre de Dieu. La Bible, c'est d'abord le récit des paroles, des choses que Dieu veut nous dire, et aussi c'est le récit des choses que Dieu a fait, ou continue de faire. Comment est-ce que nous savons que Dieu vraiment est notre Père, comme Jésus le dit? Comment est-ce que nous savons qu'il est saint? Comment est-ce que nous savons qu'il règne? Comment nous savons qu'il a une volonté? Nous le savons parce qu'il a parlé et qu'il a agi. Parce que si Dieu n'a rien dit et n'a rien fait, je ne peux rien savoir sur lui, tout simplement. C'est une illusion. Donc la réponse à cette question, qu'est-ce que j'attends de Dieu, dépend de deux autres questions. Qu'est-ce que Dieu a dit ou dit maintenant? Et qu'est-ce que Dieu a fait ou fait maintenant? Ça veut dire que ce qu'on attend de Dieu dépend de ce que l'on sait de lui. Vous savez que c'est la même chose dans les questions beaucoup plus terre à terre. Beaucoup plus terre à terre. Ce qu'on attend d'un mari ou d'une épouse dépend de ce que l'on sait d'eux, de ce que l'on connaît profondément de cette personne. En fait, qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Par exemple, vous ouvrez le bouton du téléphone de Genève, au hasard, et vous voyez un nom. Charles Dupont. Ou vous voyez toutes sortes de noms. Est-ce que ce Charles Dupont est capable d'actes honnêtes ou malhonnêtes? J'en sais rien. Est-il capable de vérité ou d'erreur? J'en sais rien. Est-il capable d'amour ou de haine? Je n'en sais rien. Beaucoup de gens n'attendent rien ou ne savent pas quoi attendre de Dieu, simplement parce qu'ils ne savent pas ce qu'il a dit et ils ne savent pas ce qu'il a fait. Ça veut dire, il ne suffit pas de croire que Dieu existe pour attendre quelque chose de Dieu ou savoir quoi t'attendre de Dieu. De même qu'il ne suffit pas de lire le nom dans le bulletin de téléphone Charles Dupont pour savoir qui est ce gars. Maintenant, si quelqu'un me dit « Ah, Charles Dupont, ah oui, il est brocanteur, là-bas, près de la Paillade, il est célibataire et il est très honnête dans son boulot. » Alors là, une fois que je sais ça, ça change tout. Parce que, d'abord, s'il est brocanteur et que je m'intéresse à brocante, bon, je vais aller vers lui. Je vais aller vers lui parce que il est honnête. Et puis, si je suis une jeune femme célibataire, je cherche à me marier qu'un antiquaire, je vais aller aussi vers lui parce qu'il est célibataire. Donc, ça change tout. Une fois que je sais quelque chose de la personne, ma relation avec la personne va changer. Et je saurai quoi attendre de lui ou ne pas attendre lui. Je ne vais pas aller chez lui pour acheter du bistec. Parce qu'il est antiquaire. Tout simplement. Alors, il est vrai, ça, c'est une certitude. Il n'y a qu'à regarder l'histoire de toute la Bible et l'histoire de la chrétienté pour le savoir. Que nous pouvons nous tromper. Nous pouvons nous tromper sur les intentions de Dieu et nous pouvons interpréter ses paroles ou ses actes de travers. Ça, c'est vrai. Cette possibilité existe, elle doit être rappelée. Mais vous savez, c'est vrai aussi dans nos relations avec notre mari, avec nos femmes, avec nos amis. Nous nous trompons parfois sur leurs intentions ou sur le sens de leurs paroles. Mais est-ce que pour autant nous cassons la communication? Ça arrive qu'on le fasse, mais c'est dommage. C'est dommage. Est-ce que parce qu'on n'a pas bien compris notre ami ou notre épouse, on ne va plus jamais l'écouter? Bon, des fois on boude. Alors on n'écoute plus pendant un jour. On dit, je ne t'écouterai plus et je ne te parlerai plus pendant un jour. Mais en général, au bout d'un jour, ça commence à être lassant. D'habiter la même maison et ne plus se parler, ne plus s'écouter, c'est un peu pénible. On ne peut pas vivre comme ça. Ça ne veut pas dire, parce que nous interprétons mal, nous comprenons mal ce que les autres nous ont dit ou nous disent, que la communication est brisée, qu'il faut se décourager. Par contre, si chaque fois que notre mari ou que notre ami nous parle, chaque fois nous prenons sa parole de travers, que chaque fois nous interprétons mal sa parole, alors c'est qu'il y a un problème. Ça arrive. Et quel est le problème? Je vais vous dire quel est le problème. C'est que nous avons cessé d'écouter. Tout simplement. Nous avons cessé d'écouter. Et vous savez, Jésus nous dit qu'avec Dieu, il y a ce risque. Et c'est grave. Comme dans un couple ou avec un bon ami, si on arrête d'écouter son ami, c'est grave. La relation est cassée. Et beaucoup de choses ne peuvent plus se passer. Jésus le dit dans Matthieu. Matthieu chapitre 13. Il nous avertit de ce problème par rapport à Dieu. Matthieu 13, verset 14. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Vous savez, il nous arrive dans la vie de refuser d'entendre et d'admettre ce que nous disent nos amis, même quand c'est pour notre bien. De refuser d'entendre ce que dit notre famille, notre mari, notre épouse, ou même notre employeur, ou parfois nos employés. Eh bien, ça arrive avec Dieu. Et nous pouvons refuser d'écouter ce que Jésus nous dit. Nous avons cette liberté, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que Jésus n'a rien dit ou que ce qu'il a dit n'a pas de valeur. Ça veut simplement dire que nous avons fait le choix, avec toutes ses conséquences, de refuser d'écouter. Alors la Bible, qui affirme que Dieu a parlé, et qu'il parle encore aujourd'hui, à travers sa parole,
Cette Bible affirme aussi quelque chose de très important. C'est que nous sommes libres d'écouter ou de fermer nos oreilles à Dieu. Dieu nous a créés avec la capacité de dire oui ou non, de choisir. Ça ressort dans énormément de textes, ça ressort dès le début dans la Genèse avec Adam et Ève, mais ça ressort dans un texte très intéressant qui est Deutéronome 30, verset 19, quand Dieu s'adresse à Israël. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Il se trouve que dans son histoire, Israël va choisir la mort, mais Dieu lui a donné la liberté. Et ça veut dire, ce texte, et tous ces autres textes, et il y en a à l'appel, on pourrait dire, ça veut dire que nous écrivons notre propre histoire, soit histoire de vie, soit histoire de mort. Alors, voici comment Jean-Paul Sartre argumente, on pourrait dire, sa négation de Dieu à partir de la liberté humaine. Parce que ça, c'est un des arguments de certains philosophes du XXe siècle, que puisque nous sommes libres, eh bien, c'est que Dieu n'existe pas. Au fond, c'est l'argument. Alors, je vais lire un tout petit extrait du livre « L'existentialisme est un humanisme ». L'homme tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il se sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. L'homme est d'abord un projet qui se vit subjectivement. Au lieu d'être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur, rien n'existe préalablement à ce projet. Rien n'est au ciel intelligible, et l'homme sera d'abord ce qu'il aura projeté d'être. Et il continue à parler de la volonté de l'homme, de sa capacité à choisir. Et sur cette base, si on continue à lire cet ouvrage, eh bien, il va dire, au fond, ça nous montre bien qu'il n'y a pas de Dieu. Et quelle idée avait-il de Dieu, Jean-Paul Sartre ? On se demande. On pourrait peut-être avoir une réponse si on voyait dans son éducation, si on voyait un peu le calvinisme qui était derrière, là, un petit peu aussi. Cette prédestination, qui, je pense, a quand même fait du tort dans les esprits. La première chose que Dieu nous dit, puisqu'on parle de Dieu à parler, et puisque Dieu a parlé, c'est comme ça qu'on peut savoir quoi attendre de lui. Mais la première chose que Dieu nous dit dans sa parole, si on veut résumer le chapitre 3 de la Genèse, c'est ceci. Vous écrivez votre propre histoire. C'est pas moi, Dieu, qui va l'écrire. Vous écrivez votre propre histoire. Vos choix sont très importants. Et ce que Sartre écrit ici, on pourrait très bien le lire en Genèse et dans toute la Bible. Vos choix sont déterminants. Votre volonté a des conséquences, et Sartre dira plus loin, mon action en tant qu'être humain, elle a des répercussions sur tous les autres êtres humains. C'est fort ça, mais c'est bon, hein ? Mais c'est déjà dans la Bible, hein ? Il ne l'a pas inventé. Jésus dit aussi, mais Dieu dit déjà dans l'Ancien Testament, tous vos actes ont des répercussions sur les autres. Chaque choix que vous faites a des conséquences sur les autres. Alors ce n'est pas parce que nous avons la liberté de rejeter Dieu ou de faire n'importe quoi. Nous pouvons même nous tuer si nous voulons. Nous avons cette liberté. Mais ce n'est pas parce que nous avons cette liberté propre que Dieu n'existe pas. Adam et Ève, au début du récit de la Genèse, ont le choix. Ils ont le choix. Soit ils écoutent Dieu, ou ils ne l'écoutent pas. Soit ils lui font confiance, ou ils ne lui font pas confiance. Et cette idée est confirmée par Jésus dans la parabole des fils prodigues, en Luc chapitre 15. La parabole du fils prodigue, c'est un homme, le fils prodigue, qui décide, qui choisit d'abandonner le père, d'abandonner et de partir. Et qu'est-ce que fait le père ? Il le laisse partir. Parce qu'il ne peut rien faire. Non, il ne peut rien faire. Parce que s'il respecte son fils, s'il respecte sa liberté, et s'il l'aime vraiment, il ne va pas l'obliger à rester à la maison. Et n'importe quel père, même sans être Dieu, fera la même chose. N'importe quel père humain ne va pas mettre en prison son fils chez lui. Hein? Il ne va pas le faire. Il va lui souhaiter du bonheur, il va lui donner des conseils, et puis son fils va partir. Il ne pourra pas l'obliger à rester à la maison et à aimer son père. Ça, c'est la première chose fondamentale que nous apprend le premier chapitre de la Genèse. Et la deuxième chose importante que nous apprend les premiers chapitres de la Genèse, c'est ceci. C'est que, quoi que nous utilisons mal notre liberté, en général, c'est vrai, nous utilisons mal notre liberté, eh bien Dieu est quand même là. Lui, il ne nous a pas abandonnés.
Lui, il reste le même. Lui, il nous aime et il nous attend.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous apprend par sa parole quelque chose de très important, que nous avons la dignité de la liberté. Pascal appelle ça la dignité de la causalité. Dieu a dit qu'il y ait la terre, il y a eu la terre, qu'il y ait les cieux, il y a eu les cieux, qu'il y ait la lune, etc. Dieu a parlé, il y a eu ces choses. Et nous avons un peu cette dignité aussi. Nous avons la dignité de dire quelque chose, de faire quelque chose, et voilà qu'apparaît quelque chose. Nous avons cette dignité de la causalité. Nous sommes des êtres libres, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Mais, surtout, Dieu nous dit, nous avons mal utilisé notre liberté. Alors, quelqu'un peut le nier. Oh, c'est que la Bible qui le dit. C'est pas que la Bible qui le dit. Vous regardez tout autour de vous, vous le voyez. Il n'y a pas besoin de lire la Bible pour savoir que l'homme utilise mal sa liberté. Hein. Il faudrait vraiment être aveugle et sourd et dans l'illusion pour croire que l'homme utilise bien sa liberté quand il l'a. Et vous savez, plus les peuples sont libres, il semble que plus les peuples sont libres, même politiquement, et plus ils ont l'air paumés. Ça ne veut pas dire qu'il faut des systèmes tyranniques. Ce n'est pas vrai. Je suis bien content de vivre dans un pays libre. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème que déjà la Bible nous montre. Alors ça veut dire quoi quand on dit « qu'est-ce que j'attends de Dieu ?» Eh bien, il y a déjà une chose qu'on ne peut pas attendre de Dieu. Parce que ça, je veux dire, qu'est-ce que j'attends pas de Dieu ? Eh bien, j'attends pas de Dieu, et nous ne pouvons pas attendre de Dieu, que Dieu nous traite comme des robots, comme des ordinateurs, ou comme des machines. Nous ne pouvons pas attendre ça de Dieu. Dieu, jamais, jamais Dieu ne fera quoi que ce soit pour ôter notre liberté, notre capacité de choisir et de construire. Bien sûr, parfois, quand l'homme utilise sa liberté et qu'il va vraiment trop loin, c'est vrai que Dieu peut intervenir et il le fait. Mais c'est presque comme s'il le faisait à contre-cœur. Parce qu'il attend. La Bible dit Dieu est patient. Il est patient, il attend. Vous savez, et c'est vrai que des fois cette patience, on la ressent parce qu'on regarde ce qui se passe dans le monde. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Mais qu'est-ce qu'il attend? Parce que Dieu, il attend. Il respecte. Il veut que l'homme fasse ce choix lui-même. Il veut que l'homme comprenne. Il ne veut pas lui donner un grand coup sur la tête. Il veut que l'homme entende son appel et que l'homme choisisse de venir à lui. C'est ça que Dieu veut. Donc nous ne pouvons pas attendre que Dieu nous traite comme des marionnettes. Par contre, ce que nous pouvons attendre de Dieu, et ça c'est la réponse à la conférence de ce soir, qu'est-ce que j'attends de Dieu? Et qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Voilà ce que j'attends de Dieu. J'attends de Dieu qu'il m'apprenne le sens de ma liberté. C'est ce que je dirais aux philosophes existentialistes. Ils n'ont pas tort, complètement. Nous sommes libres. Mais je veux apprendre comment vivre en homme libre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils nous disent aussi. Parce que les existentialistes ne sont pas vraiment des philosophes, c'est plus des moralistes. Ils sont toujours en train de nous dire, il faut faire ça, voilà comment il faut vivre d'une manière digne, voilà comment il faut se comporter. Enfin, c'est de la morale de A à Z. Voilà ce que c'est. Ce n'est pas de la philosophie. Bon, ben déjà, la Bible nous dit, vous êtes libres. Mais comment utiliser vos bouts de liberté? Voilà, je peux choisir, c'est vrai, je peux choisir. Mais Dieu me dit, il y a des bons et des mauvais choix. Oui, je suis libre de parler, hein, je peux dire n'importe quoi. Bien sûr, je suis libre de dire n'importe quoi. Mais attention, il y a des paroles qui font mal. Vous saviez ça? Peut-être que, ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui puisse nier qu'il y ait des paroles qui font mal. Qu'il y a des paroles qui blessent. Et qui blesse parfois longtemps. Parce que vous savez, les paroles blessent beaucoup plus parfois que les coups qu'on reçoit. Ça reste. Les coups, ça se guérit. Mais les paroles, pas toujours. Souvent, ça reste. Donc nous sommes responsables de nos paroles. C'est pas seulement que nous sommes libres. Vous voyez, nous avons reçu de Dieu cette chose merveilleuse qui est la liberté. Mais nous avons aussi reçu de Dieu dans sa parole le sens de cette liberté. Nous avons reçu de Dieu des paroles de sagesse, des paroles d'amour, des paroles de justice, par lesquelles notre vie peut devenir une vie d'amour, de justice, de sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas simplement des corps ou des objets. Quoique les objets ne choisissent pas. Mais disons, si nos seuls choix c'était, bon, est-ce que ce soir je vais manger au burger ou au McDo? J'avais le choix tout à l'heure. J'ai choisi burger parce que j'ai entendu quelques Américains qui ont dit c'est meilleur. J'ai pris le risque. Je ne sais pas si c'est meilleur, en fait. C'est un peu du kiff-kiff, comme on dit. Du pareil au même. Mais nos choix ne se limitent pas à qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais mettre comme chemise?
où je vais habiter, quelle paire de chaussures je vais mettre, etc. Le choix ne se limite pas à ça. Non, c'est surtout en ce qui concerne notre dimension spirituelle que nos choix sont importants. Parce que nous sommes aussi faits pour grandir dans l'amour, dans la sagesse, dans la vérité. Le film, le terrible film d'Oliver Stone, Tueur né. Dans ce film, un des personnages, Mickey, dit ceci, qui reflète une philosophie de notre temps et du cinéaste. Voilà ce que dit Mickey. Le monde est fait de prédateurs. Tout le monde a le démon en lui, et il ajoute, le meurtre est pur. Croyez-vous cela? Croyez-vous que tous les hommes sont des prédateurs? Et croyez-vous que tout le monde a le démon en lui? Eh bien, Dieu, lui, il ne dit pas cela. Il ne dit pas cela. Parce que tout le monde a en lui autre chose. Autre chose. Qui est beaucoup plus magnifique, heureusement, que le démon. Et c'est quoi cette chose? Eh bien, c'est ce que la Bible appelle l'image de Dieu. Et demain soir, on continuera, cette conférence-là est maintenant terminée, demain soir on continuera, qu'est-ce que j'attends de Dieu? Et la réponse à cette question est liée à ce fait que nous avons en nous l'image de Dieu. Si nous pouvons comprendre ce que ça veut dire que nous avons en nous, que nous avons été créés avec l'image de Dieu en nous, eh bien nous saurons qu'est-ce que Dieu attend de nous. Nous saurons. Et c'est de cela que nous parlons demain soir. J'espère que c'était ni trop court ni trop long, moyennement bon.